moi je prends le prêt du Mouchmaï au café oriental. J'ai réduit totalement cette
histoire. Moi, j'ai décidé de vous voyer au père Cambage, pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, c'est l'heure de votre émission 100% interactive, parole aux auditeurs, une émission de Radio Capi qui vous permet de prendre la parole et de donner votre point de vue sur des sujets qui nécessairement ne font pas la une de l'actualité, mais qui vous intéressent. Ce mardi 2 mars 2010, votre émission se penche sur les institutions provinciales, à savoir les assemblées et gouvernements provinciaux. Depuis l'installation de ces institutions provinciales dans presque toutes les provinces, plusieurs crises et des conflits ont émaillé les relations entre ces deux institutions. Pas plus tard qu'hier, au Maniema, la plénière à l'Assemblée provinciale s'est terminée en queue de poisson, sous fond d'injures et de violences entre députés provinciaux, à la base une motion de censure contre le gouverneur de province. Certains des accords ont été bénéfiques pour l'avancement des institutions, mais d'autres ont carrément bloqué la marche de la province pendant plusieurs mois, voire même des années. C'est comme dans un spectacle sur la scène, les autorités provinciales, dont les députés provinciaux face au gouvernement, et dans la salle de spectacle, la population, parmi ces personnes, vous, auditeurs. La seule différence avec le théâtre, c'est que ce sont les spectateurs qui ont élu les acteurs au suffrage direct et indirect. Pour lancer notre émission, voici la question: quelle analyse faites-vous du fonctionnement de ces institutions après plus de 3 ans de leur installation? Pour en parler, nous avons invité un expert de la décentralisation, M. Gilbert Castingué. Il est conseiller juridique du ministre de la décentralisation et aménagement du territoire. Ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas de nous contacter pour vous exprimer. Cette émission est réalisée par Pierre Lamegi, Arlette Mboui, sous la supervision de Ben Kabamba. Liam Lungamba est à la mise en onde. Soyez les bienvenus.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Cela fait plus de 3 ans que les institutions provinciales sont installées dans toutes les provinces de la RDC. Et la question pour aujourd'hui, pour nos auditeurs, c'est de savoir quelle analyse faites-vous du fonctionnement de ces institutions, bien sûr après plus de 3 ans de leur installation. Nous avons Théodore Akananga, Damasa Lumbashi, Ali Agoma. Entre-temps, notre invité est en train de venir, il s'agit de Gilbert Castingué. Il est expert de la décentralisation, mais aussi conseiller juridique du ministre de la décentralisation et aménagement du territoire. Bonjour Théodore.
Bonjour Madame Marie-Chantal, journaliste de Radio Capi.
À partir de Kananga, du Kasaï occidental, quelle analyse faites-vous du fonctionnement de ces institutions après 3 ans de leur installation?
Il faut retenir qu'il y a 3 ans que nous considérons que le mariage entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, c'est un mariage sans divorce, un mariage qui a une complicité. Mm-hmm. En fait, la mission de l'Assemblée provinciale, c'est la production législative et le contrôle du gouvernement provincial. Mais nous assistons depuis 3 ans qu'il n'y a pas assez de production législative, encore moins le contrôle du gouvernement provincial. Par contre, il y a complicité et il y a un laisser-aller. Vous ne pouvez pas, en tant que député, par exemple, penser à une action comme une motion en faveur des membres du gouvernement provincial ou encore une, comme ils ont leur pratique, demander par exemple qu'un gouverneur ou bien un ministre vienne s'expliquer sur telle question, et vous pensez que cela peut aboutir.
Oui, mais quand même, Théodore, au Café occidental, il y avait une motion de défiance contre le gouverneur de province.
Il y a eu quand même. Au début de de son élection. C'est, on a même jugé, on a même pensé que c'était prématuré. Mais je vous informe qu'il y a deux semaines maintenant qu'il y a eu aussi une sorte d'émotion, c'est-à-dire un réquisitoire envoyé par le parquet général de la République pour que le gouverneur qui était objet d'une plainte contre lui pour des infractions des droits communs, on a demandé à l'Assemblée provinciale de le mettre sur la justice pour qu'il soit jugé. Mais je vous dis qu'il y a des semaines qu'il y a eu un spectacle et que l'Assemblée s'est comportée comme une caisse de résonance du gouverneur. Et elle a refusé qu'actuellement, par la majorité, bien entendu, l'opposition a refusé.
C'est votre point de vue, mais n'oublions pas aussi que dans la démocratie, c'est la loi de la majorité. Si les députés ont trouvé, ont jugé de pouvoir rejeter cette motion-là ou bien cette décision-là, donc ils sont libres de pouvoir prendre des décisions. Mais la question de savoir comment est-ce que vous appréciez en fait les décisions qui sont prises au niveau de vos institutions.
En fait, ce que je dis, que ça bloque lorsqu'on ne respecte pas la mission confiée à l'Assemblée provinciale de la production législative et le contrôle du gouvernement. Lorsque le contrôle devient complaisant et qu'on n'arrive pas à le faire, le fonctionnement devient boité, on ne peut pas espérer une vie meilleure. Et cela contribue à consacrer l'impunité et à sacrifier tout un devenir, surtout d'une province comme le Gâteau-Occidental, qui jusqu'à présent ne répond pas aux cinq chantiers du président de la République.
C'est votre avis, Théodore? Vous pensez qu'il y a de la complaisance hein, au niveau dans la prise des décisions au niveau de l'Assemblée provinciale? Merci Théodore pour votre intervention à partir de Kananga. Bonjour Damas.
Bonjour Marie Chantal, bonjour à tous les auditeurs.
C'est de Lubumbashi. Quelle est votre vision, votre analyse du fonctionnement des institutions après 3 ans de leur installation?
Bon, s'il faut prendre ce fonctionnement sur le plan national, je constate que le bilan du fonctionnement des institutions en province est mitigé. Mm-hmm. Du fait qu'il y a des provinces où cette expérience a essayé un peu de marcher et des provinces où ça n'a pratiquement pas marché pour diverses raisons.
Chez vous au Katanga?
Oui, bon, chez nous au Katanga, je vais d'abord prendre sur l'ensemble. Vous savez, sur l'ensemble du territoire national, là où ça n'a pratiquement pas marché, c'est toujours suite à la même mise de Kinshasa. Parce que vous savez, jusque là, il y a des autorités à Kinshasa qui n'ont pas encore compris la démarche que la République est engagée à faire pour le moment. Ils sont en train de croire que le régime ne va pas changer, l'administration ne va pas changer, il faudra toujours qu'on demeure et que les provinces demeurent toujours sous tutelle de Kinshasa. Mm-hmm. Vous savez que même pour ceux qui se passent dans toutes les provinces là-bas, Kinshasa est pour beaucoup. Il y a des autorités à Kinshasa qui sont là pour alimenter les conflits, délibérément des conflits entre les institutions en province. Et quand ça brûle, ils viennent jouer aux pompiers en prenant cette cause pour une partie, en constituant des commissions, tout ça. Donc, c'est ce qui pose des problèmes.
Mais est-ce que vous avez un exemple où vous pensez qu'il y a eu une ingérence du gouvernement central qui n'a pas permis un bon fonctionnement entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial?
Mais avant, je vais prendre par exemple l'exemple de la province de l'Équateur, tout ce qui se passe là-bas. Ce sont les fils des filles de cette province qui sont à Kinshasa, qui est en quête de positionnement, qui sont en train de faire tout ce qui se passe là-bas. Donc ça, ce n'est un secret pour personne. Je vais maintenant revenir pour notre province, le Katanga. Moi, je crois qu'au Katanga, cette expérience a essayé un peu de marcher un tout petit peu suite à la complicité d'esprit entre le gouvernement provincial conduit de maître par l'honorable Moïse, que je salue les actions en passant, le président de l'Assemblée nationale. Mais seulement, il y a aussi des dérapages par-ci, par-ça, par-là, des ratés que nous pouvons mettre sous le compte des dérapages. Même ceux-là qui crient, je pense que nous devons être aussi réticents et comprendre que nous sommes des apprenants démocrates. On ne peut pas partir d'un régime totalement dictatorial et dictatorial vers un régime totalement démocratique. Donc, moi, je considère que la démocratie en soi...
C'est un processus.
Oui, c'est un processus.
Oui.
Et à tous les niveaux du pouvoir, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ici chez nous, les autorités doivent faire un effort pour comprendre les enjeux du moment et comprendre que le contexte a changé.
Mm-hmm.
Les choses doivent marcher à l'aide de la vague.
Oui,
chez nous en province.
Merci beaucoup, Damas.
Je voudrais juste...
Vraiment, Damas, nous n'avons pas vraiment suffisamment de temps. On vous a donné le temps qu'il fallait. Vous avez expliqué, vous avez pensé en fait que le bilan est assez mitigé. Il y a des endroits où ça marche, mais vous avez ou des autres endroits où il y a des problèmes de fonctionnement. Et vous avez plus déploré l'ingérence du gouvernement central dans le fonctionnement des institutions provinciales. Merci beaucoup, Damas, pour votre intervention. Bonjour, Ali.
Oui, bonjour, Marie-Chantal.
Ali, vous nous appelez de Goma, on vous écoute.
Écoutez, Marie-Chantal, vous savez, comme disait le général belge Jan Fett, avant l'indépendance, c'était qu'à la pleine indépendance. Moi-même, je dirais cela qui, avant le régime fortement centralisé, intégral, après le régime décentralisé. Pourquoi dire cela, Marie?
Oui, pourquoi?
Vous savez que l'idée d'avoir les assemblées provinciales, c'était de rapprocher les dirigeants de la population et de résoudre certains problèmes au niveau local. Mais depuis qu'on a instauré ce système, vous venez bien de le dire là, il y a plus de 3 ans, il n'y a aucun changement. Nous sommes en train de vivre comme si nous étions encore dans les régimes fortement centralisés. Je vous donne des cas, Madame Marie-Chantal, pour ce qui est du cas concret de la ville de Goma. Nous avons vu des routes mal construites. On n'a pas vu, on n'a pas senti la présence des députés provinciaux pour réagir. Il a fallu l'intervention de Kinshasa pour arrêter les bandits qui tentaient de construire des mauvaises routes en plein centre-ville de Goma. Deuxième cas, madame, on est en train aujourd'hui de démolir la ville de Goma. Des milliers de familles passent nuit à la belle étoile. Mais où sont ces députés provinciaux? Qu'est-ce qu'ils font? Je vous dis que le bilan est largement négatif, très négatif alors.
Oui, mais Ali, pour ce cas-là, qu'attendez-vous des députés provinciaux? Pour le cas où il y a eu démolition, il y a des personnes qui dorment à la belle étoile, qu'attendez-vous des députés provinciaux?
Mais, madame, en tant que député provinciaux, élu par cette même population, il devait quand même prendre des mesures quand on est en train de démolir la maison d'une personne. La personne doit être indemnisée. C'est tout ce que nous ne voyons pas. Nous voulons bien l'urbanisation de la ville, mais ça ne se passe pas de normes pareilles. Ce n'est pas ça.
Donc vous voulez que les députés sortent de l'argent ou bien que les députés, au cours d'une plénière, puissent trouver les solutions et proposer à l'exécutif? Explicitez-nous un peu.
Effectivement, c'est ça qui devait en principe se passer parce que la décision émane de l'exécutif. Et l'organe qui est censé, qui peut être professionnel, écouter, c'est l'Assemblée provinciale. Il devait ensemble allonger avec l'exécutif pour trouver des bons moyens pour voir comment on devait localiser cette population-là. Ça ne se passe pas comme ça.
Mmh.
Et j'ajoute aussi Marie-Chantal.
Oui.
Moi, ce que j'ai remarqué avec l'innovation des assemblées provinciales, il n'y a que les députés qui sont bénéficiaires. Parce qu'aujourd'hui, on en a vu ceux-là qui n'avaient pas de voitures, ils se sont frappés de nouvelles voitures, ils se sont en train de construire des maisons partout dans la ville de Goma. C'est sur les mêmes points qu'ils ont excellés. Mais sur d'autres points, en tout cas, ils ont grand zéro et rendez-vous en 2011.
C'est donc, votre avis, c'est vous qui, c'est votre constat. Merci, Ali, pour votre intervention.
Oui, c'est bon,
de Goma. Nous avons Séraphin, ce sera le dernier auditeur de cette première série. Bonjour, Séraphin.
Oui, bonjour, madame Chantal.
D'où lire, quelle est votre vision, quelle analyse faites-vous du fonctionnement des institutions provinciales?
Bon, en fait, personnellement, je ne serais pas à émettre des idées paradoxales aux autres. Je suis d'abord très content d'avoir abordé ce sujet qui est un sujet-là très pertinent. Mais personnellement, je me demande toujours quelle est la raison d'être des élections provinciales, si ce n'est pas que des dépenses inutiles à charge de l'État. Je crois à l'époque de Mobutu, c'est le chef de division qui représentait les ministres nationaux dans différentes provinces. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle forme de l'État, on a créé les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales. Mais que font ces deux institutions dans des provinces si ce n'est pas que bousiller les fonds de l'État pour rien, madame? J'ai avec moi ici le rapport de l'ICOCO d'octobre 2019 qui critique la manière dont les 40% rétrocédaient aux provinces et étaient à son tour rétrocédés aux VTD. Mais dans notre province, on a rétrocédé 0% dans les VTD. Mais quelles font cette assemblée provinciale pour plaider sur notre territoire?
Merci beaucoup, Séraphin. Vous vous posez des questions même sur le fonctionnement même de ces institutions. Vous pensez que c'est alourdir tout simplement les dépenses de l'État.
Parole aux auditeurs.
Notre invité a déjà fait son entrée dans notre studio. Il s'agit de Monsieur Gilbert Katringuet. Bonjour, Monsieur Katringuet.
Bonjour, madame.
Vous êtes un expert de la décentralisation, mais aussi vous êtes conseiller juridique du ministre de la décentralisation et aménagement du territoire.
Exact.
Vous avez suivi cette première série d'auditeurs, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous pouvons faire un petit rappel en fait sur le fonctionnement normal, ce qui est écrit dans les textes des institutions provinciales, notamment quelles sont les relations entre l'Assemblée et le gouvernement provincial.
Oui, mais merci beaucoup, madame. Je vous remercie d'abord parce que vous avez bien voulu m'associer à vos réflexions. Et j'étais dans un séminaire, nous sommes en train de réfléchir sur des choses beaucoup plus compliquées, le transfert des charges et des compétences en province. Nous avons même invité des ministres provinciaux de fonction publique et des budgets. Et donc, j'arrive fraîchement, je dois retourner là-bas. Mais je voudrais tout simplement dire que les auditeurs qui expriment leurs inquiétudes n'ont pas tellement tort. Mais le processus de la décentralisation ne doit pas être confondu avec les défaillances qu'on enregistre au niveau des hommes qui animent cette institution, la décentralisation.
Mais qu'est-ce qui doit se faire normalement d'abord?
Ce qui doit se faire normalement, c'est que les textes sont là, qui définissent les règles du jeu. Mais nous avons comme l'impression qu'il y a un sérieux problème d'hommes, ceux qui doivent animer, parce que nous avons voulu que le peuple lui-même puisse placer au niveau des institutions provinciales les hommes qu'il faut, et le peuple, on a comme l'impression qu'il s'est trompé un peu par rapport aux enjeux même de cette réforme, et ça fait que les hommes qui fonctionnent actuellement dans ces institutions-là ne semblent pas être, du moins pour la plupart, à la hauteur de leur tâche.
Et que disent les textes d'abord?
Bien sûr, d'abord, c'est que ces hommes doivent être élus. Et on a défini le rôle. Il y a l'exécutif au niveau de la province, qui est animé par le gouverneur de province et son gouvernement. Il y a l'Assemblée, qui joue un rôle très important dans l'élaboration des textes, des lois qu'on appelle édits au niveau de province, donc pour régler les matières qui sont de la compétence des provinces. Et donc, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a même des assemblées provinciales qui n'ont fait pendant 3 ans qu'un édit. Donc, il y a un problème sérieux de compétences au niveau des hommes qui animent ces institutions. Mais comme c'est la première expérience, je pense que tout le monde est en train de tirer les leçons qui s'imposent. Et je pense que au deuxième tour, à la deuxième législature, on pourra peut-être améliorer.
Oui, et quels sont les bénéfices, en fait, le peuple congolais par référendum a voté cette constitution? Donc, nous allons vivre dans un régime décentralisé. Mais quels sont, en fait, les bénéfices de ce régime décentralisé?
Non, il y a beaucoup de bénéfices. Vous imaginez, madame, qu'avant, pour créer un dispensaire, il fallait venir à Kinshasa, vous quitter Ariwara, plus ou moins 2-3 000 km d'ici, pour venir chercher une autorisation de créer un dispensaire, c'était quand même terrible. Il fallait donc rapprocher l'administration des administrés, et il fallait promouvoir le développement local, parce que le champ des décisions sont transférés au niveau le plus proche possible des bénéficiaires des actions gouvernementales. Et nous irons plus loin parce qu'il y aura des élections au niveau des entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire au niveau des villes, au niveau des communes, qui auraient reçu aussi des attributions pour gérer les affaires locales. Et donc, pour obtenir des décisions sur des matières d'intérêt local, on n'aura pas besoin d'effectuer des longues distances. Mais le problème, comme je vous dis, c'est les hommes qui animent ça.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait alors pour améliorer?
Ce qu'il faudrait, c'est...
Le gouvernement n'avait pas prévu peut-être des séances de formation. Est-ce que c'est une carence de formation ou bien c'est l'ignorance? Qu'est-ce qui se passe?
Non, il fallait d'abord constater la défaillance. Après avoir constaté la défaillance, on préconise des solutions, et c'est ainsi que on a entrepris un certain nombre de séances de renforcement de capacité, comme on les appelle, et donc de formation des députés. Mais vous savez, pour bénéficier et tirer les avantages d'une formation, il y a des prérequis. Quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom ou qui ne sait pas lire aussi.
Donc il y a des députés qui ne savent pas écrire.
Je le dis franchement, il y en a. On en a vu, nous avons les fonctions que nous occupons nous permettent de faire le tour de certaines provinces. Et franchement, c'est la catastrophe. Pour certains, je ne dis pas tous, il y a aussi des gens qui disent, mais ce sont des minorités dans une grande masse. a fait que, comme l'a dit l'auditeur de Goma, c'est la course à l'argent. Deux ou trois députés, dans certaines provinces, il suffit d'avoir deux députés, on fait une motion contre le gouverneur. Donc on utilise ça comme une arme pour terroriser le gouverneur de province.
Donc ça devient un fonds de commerce.
Et c'est un fonds de commerce.
Oui, parce qu'on a constaté qu'il y a plusieurs provinces, hein, dans plusieurs provinces, il y a eu des motions contre le gouverneur, mais nous allons y revenir le temps de prendre une autre série d'auditeurs.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour Freddy.
Bonjour Marie-Chantelle, bonjour à tous les discours du gouvernement et je connais un auditeur.
Oui, on vous écoute. Parlez un peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas très bien.
Merci. Moi, je pense que pour ce qui concerne le fonctionnement des institutions provinciales, il y a lieu de dire qu'il y a un échec, hein, les choses ne marchent pas très bien. Je voudrais d'abord parler du niveau national. Vous savez dans quel contexte les gouverneurs ont été élus. Nous avions suivi par-ci par-là qu'il y avait un jeu d'argent. Est-ce que personne...
Freddy, il y a un problème de liaison. On n'arrive pas à vous suivre, mais oui, vous pouvez reprendre, peut-être ça s'est amélioré.
Merci, j'ai dit ceci. En principe, pour ce qui concerne le fonctionnement des institutions provinciales, moi j'estime qu'il y a un problème. Les résultats jusqu'à là n'est pas bon. Vous savez que la population s'est plainte partout en République démocratique du Congo. Nous devons d'abord voir ce qui s'est passé au niveau national en ce qui concerne toutes les provinces. Dans la plupart des cas, on a parlé des jeux d'argent lorsqu'on a élu le gouverneur. Est-ce que vous pensez que les députés peuvent facilement contrôler le gouverneur s'il y a eu un jeu d'argent? Bon, maintenant, revenons à ce qui concerne leur fonctionnement proprement dit. Je pense, est-ce que les députés provinciaux ont-ils suffisamment de moyens? Est-ce qu'ils contrôlent le gouvernement provincial? Est-ce que le gouvernement provincial a eu la chance d'accéder aux ressources financières qui peuvent permettre de travailler correctement? Je ne pense pas. On a parlé de 40%. Est-ce que les 40% sont cédés chaque mois? Je ne crois pas. Et si vous voyez de près ce qui se passe dans la plupart de provinces, vous allez trouver que la population se plaint que rien n'a changé. Rien n'a changé pourquoi? C'est parce qu'on ne contrôle pas. Est-ce que le Congolais accepte le contrôle? Est-ce qu'il veut le contrôle? Et puis lorsqu'il reçoit l'argent pour travailler, est-ce qu'il accepte de travailler correctement? Est-ce qu'il peut faire la différence de sa poste et la poste de l'État? Je pense que c'est un problème. Si l'expert dit que nous sommes à l'école, on apprend. Est-ce que vous pensez que nous les avons placés pour apprendre ou c'est pour travailler?
Merci beaucoup, Freddy, pour votre réflexion à partir de Kamina, dans la province du Katanga. Bonjour, Louis. Louis voulait intervenir à partir de Kananga. Bonjour, Louis. Lui a raccroché, nous prenons directement Urbain qui nous appelle à partir de Kalemie. Bonjour Urbain.
Bonjour madame la journaliste.
Urbain, on vous écoute.
Oui, vraiment, de ma part, je vois que le bilan jusque-là est encore négatif. Du fait qu'il n'y a pas de compréhension entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale.
Ça c'est pour quel cas? Dans quelle province?
Donc, je vais d'abord l'exemple de la province de Maniema que vous nous avez informé hier, y compris de notre province du Katanga. Toujours, nous voyons, il y a des contradictions entre le gouvernement provincial et le gouvernement et l'Assemblée provinciale. L'incompréhension, c'est quoi? Les députés, lorsqu'ils viennent dans leurs vacances parlementaires, ils nous expliquent que Il y aura ceci, nous avons voté pour votre intérêt, mais arrivé, vous verrez d'autres choses qui se passent. Et par là, nous voyons qu'il n'y a pas de compréhension. Peut-être les députés viennent nous mentir, peut-être le gouvernement fait autre chose qui ne dépend pas de l'Assemblée provinciale.
Mmh. C'est votre constat, Urbain. Merci de nous avoir appelé à partir de Kalemie. Nous prenons directement Richard qui nous appelle de Mahagui. Bonjour Richard.
Bonjour Marie-Chantal.
Oui, quelle est votre lecture du fonctionnement des institutions après plus de 3 ans de leur installation?
Oui, selon moi, le bilan est presque à 100 à 90% négatif. Hein. C'est rien ne marche aussi. Il n'y a pas mariage entre le gouvernement provincial et, l'Assemblée provinciale.
Mm-hmm.
En deuxième position, je fais le constat de l'ingérence du gouvernement central. Je prends l'exemple typique de notre province orientale, par exemple.
Oui.
Pour les cas s'agissant de la motion de défiance posée contre le gouverneur de la province orientale, pendant quand on devait siéger, le gouvernement central, le ministre avait interpellé le gouverneur de la province et quelques membres du gouvernement. Alors, chose qui n'a pas permis à l'Assemblée provinciale de siéger. C'est ça le constat que j'ai fait.
Et pour vous, quelles sont les propositions que vous pouvez faire?
Ma proposition était, mais qui est que chacun, les gouverneurs, le gouvernement et l'Assemblée provinciale, que chacun se retrouve concerné par les dossiers, que chacun fasse ce qu'il doit faire.
Merci beaucoup, Richard, pour votre intervention. On a pu recontacter lui de Kananga. Lui, vous êtes en ligne?
Oui, bonjour, Marie-Chantal.
Oui, lui, on vous écoute.
Vraiment, d'une manière générale, quand on est dessus.
En tout cas, lui, est-ce que vous pouvez vous mettre à un endroit aussi assez calme pour qu'on puisse mieux vous entendre? Parce que là, il y a vraiment beaucoup de bruit autour de vous. D'ailleurs, on a perdu lui qui nous appelait de Kananga au Kasaï occidental. Notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Katsinge, vous avez suivi nos auditeurs. Ils reviennent sur, par exemple, la corruption lors de l'élection du gouvernement, ce qui a déjà faussé la base même des relations entre les députés provinciaux et le gouvernement. Mais ce sont des allégations parce que jusque-là, il n'y a toujours pas eu des preuves. Mais aussi, ils reviennent sur le fait qu'ils se retrouvent pas dans ce processus de décentralisation qui devait normalement les rapprocher des dirigeants. Votre réaction?
Oui, mais monsieur, je ne voudrais d'abord pas répondre aux allégations, somme toute, sans preuve, hein, de corruption lors des élections déconnues des gouverneurs. Mais je pense, à ce qui me concerne, que les députés provinciaux ne représentent pas les gouverneurs. Les députés provinciaux représentent leur base, le peuple, qui les a élus. Donc, ils ne peuvent pas dire que nous ne savons pas fonctionner parce que le gouverneur nous a corrompus pour être élu, mais ils doivent rendre compte, non pas au gouverneur, mais au niveau du peuple. Et donc, je voudrais revenir sur le fait qu'il y a franchement un problème de compétences parce que les pouvoirs sont séparés. Le principe, c'est la séparation de pouvoirs. J'ai vu un auditeur qui a même parlé des promesses que les députés vont faire.
Les promesses de campagne.
Ils vont construire des ponts, ils vont construire des écoles. Et c'est pas ça le rôle d'un député. Un député n'est pas là pour construire, c'est l'exécutif qui doit construire. Les députés plaident pour que dans le budget, par exemple, on puisse inscrire la construction de telle école, mais c'est pas lui qui construit matériellement. Si le budget n'est pas voté dans ce sens-là, avec ces lignes-là, eh bien, il est tout à fait normal qu'avec la suffisance des moyens, on ne puisse pas faire ce qu'il a promis.
Et concernant l'ingérence?
L'ingérence du gouvernement central, c'est une question qui est tout à fait discutable parce que vous savez que le processus de la décentralisation, il est encore à une sorte de phase d'apprentissage avec tout ce qu'il y a comme dérapage, ne peut pas laisser le pouvoir central indifférent. Lorsqu'il y a par exemple des scènes de violence dans l'hémicycle du palais de l'Assemblée provinciale, vous pensez que parce qu'il y a la décentralisation, le pouvoir central va laisser les gens se tuer. Et donc, il y a des prérogatives, notamment l'administration du territoire et l'ordre public qui reviennent au pouvoir central. Et le pouvoir central doit s'assumer. Et donc, il faut peut-être appeler à plus de sens de responsabilité à tous ces députés, à tous ces gouverneurs de province, parce que lorsqu'on parle du bilan des institutions provinciales, il n'y a pas que l'Assemblée qui a échoué. même le gouvernement provincial, lorsqu'on dit qu'il y a par exemple des assemblées qui n'ont fait qu'un édit, mais on sait que l'initiative d'un édit, c'est la loi au niveau de la province. Hein. Et l'initiative peut venir du gouvernement provincial ou d'un des députés. Et donc, s'il n'y a pas eu production législative au niveau de la province, c'est que les gouvernements provinciaux et les assemblées n'ont pas travaillé forcément.
Oui. Et aussi, nous revenons sur ces motions de défiance un peu partout, hein, au Maniema, au Nord Kivu, dans la province orientale, au Kassai occidental, à l'Équateur, c'est là où ça a abouti parce que le gouverneur a été destitué. Il y a aussi au sud de Kivu. Donc il y a eu plusieurs provinces où il y a eu des tentatives de motion pouvant destituer le gouverneur. Est-ce que cela aussi c'est l'apprentissage même ou bien il y a vraiment des raisons qui sont fondées parce que vous dites qu'il faut vraiment consolider ces institutions-là?
Bon, il y a deux lectures qu'on peut faire de cet état de choses. C'est que d'abord, petit à petit, il y a des députés qui se réveillent, qui se disent non, il y a quand même des problèmes de gestion assez sérieux à certains niveaux du pouvoir, donc au niveau des gouvernements provinciaux. Ils se réveillent et ils mettent en marche la procédure parlementaire de contrôle. Et donc ça, c'est à féliciter.
Mm-hmm.
Mais une autre lecture, c'est aussi qu'il y a des règlements de compte. Comme je vous ai dit, deux ou trois députés se disent, non, bon, nous sommes un peu fauchés si on essaie de...
Mais il y a des préalables. Deux ou trois députés ne peuvent pas amorcer une motion.
Non, mais une motion de défiance contre le gouvernement, par exemple, dans une province comme au Maniema, deux députés suffisent. C'est 10% du nombre de députés. Lorsque vous avez 23 ou 24, deux députés suffisent. S'il signe, ce sera recevable.
Mm-hmm.
Et donc, c'est tous ces problèmes. Mais je crois que dans tout ça, il faut comprendre que le processus de la décentralisation est déjà en marche. Ça prouve qu'on apprend sur l'État et qu'à un moment donné, il y aura naissance d'une conscience nationale, il y aura naissance d'une véritable pratique démocratique et les choses vont s'améliorer. C'est toujours comme ça au début. Les choses commencent à tâtons et petit à petit, les gens sont aguerris et on finit par développer une culture démocratique relative à la décentralisation.
Parole aux auditeurs.
Pour participer à cette émission, vous pouvez nous écrire à notre adresse internet pa@radiocapi.net, comme l'a fait Hubert de Bukavu. Il écrit ceci: en réalité, la majorité de nos élus au niveau national, tant qu'au niveau provincial, ont eu des voix d'électeurs, soit parce qu'ils avaient distribué des biens ou encore des sommes d'argent, ou plusieurs d'entre eux sont à leur premier emploi, d'où plusieurs ignorent leur vraie et noble mission. Et comme conséquence, nous vivons des motions qui souvent sont contestées pour non-respect de forme ou encore de fond, raison pour laquelle les contrôles des gouvernements ne sont pas faits ou encore rien n'est visible comme changement dans la gouvernance. Il y a aussi Chiro qui nous a écrit: à partir de la province orientale, nous peuples congolais avons été naïfs lors des élections de 2006. On n'a pas su pour qui voter. Hier, on s'est battu comme dans l'hémicycle de l'Équateur, aujourd'hui dans celui du Maniema. Pas plus tard qu'hier, on savait que la motion de défiance contre le gouverneur de la province orientale et celui du Nord Kivu n'aboutirait à rien. Tout simplement, les députés provinciaux avaient faim. Il y a aussi Viviane de Kolwezi qui nous écrit, c'est Kolwezi sur Katanga. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, je trouve que pour mettre fin à toutes ces crises qui rongent nos assemblées provinciales en République démocratique du Congo, les honorables députés provinciaux doivent privilégier les intérêts de la population qui les a mandatés et aussi privilégier les intérêts de leur parti politique. À mon avis, Son Excellence Monsieur le Président de la République devrait peut-être, si la Constitution ne le permet, s'ingérer dans la gestion de ces assemblées provinciales et sanctionner les fauteurs de troubles. Nous avons Emina qui est en ligne à partir de Mbandaka. Emina, on vous écoute.
Oui, bonjour Madame et Marie Chantal et à tous les auditeurs de la radio.
Bonjour.
Madame, nos institutions provinciales nous ont rendu un très très mauvais service.
africain. Donc le Sénégal est né, est largement né. Je vais d'abord énumérer dans l'Assemblée. Vous savez que nos députés provinciaux, ils ont l'air de son
ah. Emina, vraiment, la ligne n'est pas du tout bonne. Hein. On ne vous suit pas très bien. On va essayer de pouvoir vous recontacter peut-être plus tard. Peut-être que ça va s'améliorer. Nous avons l'honorable Jean-Lucien Boussa. Il nous appelle à partir de Kinshasa. Bonjour, monsieur Boussa.
Bonjour.
On vous écoute.
Ben, je crois que les problèmes qui se posent à nos assemblées en général et à nos assemblées provinciales en particulier sont liés à plusieurs facteurs. Le premier facteur, ce que j'appelle le péché originel, c'est lorsqu'il est arrivé le moment de pouvoir présenter sa candidature comme député provincial, il n'a jamais été question des critères. Il n'y a pas de critères qui ont été élaborés, définis par les textes de loi pour dire que à tel niveau d'expérience, à tel niveau d'expertise, à tel niveau de formation, on peut accepter tel citoyen comme candidat. Donc, tout le monde avait la possibilité de pouvoir être candidat, et donc les électeurs n'ont eu à voter que les gens qui s'étaient présentés devant eux. Donc, l'absence des critères de sélection des candidats à tout niveau est aujourd'hui un grand facteur de déstabilisation de nos institutions.
Donc,
c'est un facteur. C'est le manque de conscience politique. On ne vient pas aux politiques pour devenir millionnaire. On vient aux politiques pour rendre des services publics. Et la plupart sont venus aux politiques parce qu'ils espéraient que la politique était l'occasion de pouvoir se réussir une situation sociale, une situation financière. N'est-ce pas ? Malheureusement, la politique avait pour but de pouvoir gérer la cité, créer les conditions qui permettent la production de services publics de qualité. Or, aujourd'hui, la plupart des élus n'ont pas la conscience politique. La preuve, c'est qu'on a été élus sous la liste d'un tel parti politique, et puisque le parti politique n'a pas la présidence de la République ou le gouvernement, on choisit maintenant de s'aligner derrière les partis politiques ou la majorité qui a le gouvernement. Ça pose un véritable problème. L'autre problème aussi, c'est la manipulation politicienne. N'est-ce pas ? Vous savez que la corruption est encore ce mal qui gangrène les pays. Mais en même temps, il y a ces opportunistes qui sont venus en politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien que pour pouvoir se refaire la situation. Donc, ils sont victimes, sinon acteurs, et de la manipulation politique, mais en même temps de la manipulation financière.
Oui.
Et aussi l'immaturité.
Oui.
Le fait que ce sont de nouvelles institutions, les gens n'étaient pas habitués, n'est-ce pas, à pouvoir siéger dans les assemblées. C'est la première fois qu'ils y arrivent. Et ils ont des difficultés d'abord à intérioriser leur propre rôle, leurs propres attributions, mais en même temps à pouvoir servir la nation comme il se doit.
Oui, monsieur Boussa, pour revenir sur les critères, est-ce que vous êtes député national? Quelles sont les possibilités d'une révision de la loi électorale?
Mais puisque avec la Commission nationale électorale indépendante qui va être mise en place très bientôt, il y aura naturellement une nouvelle loi sur une nouvelle loi électorale. Je suis de ceux qui, déjà, avaient milité en faveur d'un critérium rigoureux pour être sélectionné au niveau de député national, président de la République, député provincial, etc. On ne peut pas, à ce niveau de responsabilité, sans critérium. Donc la loi électorale qui va être discutée au niveau de l'Assemblée nationale, probablement dans les temps qui vont venir, va nous permettre de pouvoir résoudre ces problèmes fondamentaux. N'est-ce pas?
Oui.
Où il y a un background nécessaire pour pouvoir assumer une responsabilité. Déjà pour devenir un chef de service dans une entreprise, privée comme publique, il y a un temps à passer. Pour devenir un chef de bureau au niveau de la fonction publique, il y a des critères rigoureux à observer. Mais comment pour devenir député national, pour devenir député provincial, pour devenir même président de la République, qu'il n'y ait pas de critériums rigoureux? Mais c'est ça le problème. De sorte que qu'on trouve dans les assemblées, des gens qui n'ont pas la maîtrise de la langue de l'administration publique, des gens qui n'ont pas la maîtrise, n'est-ce pas, des raisonnements cohérents, les gens qui pensent qu'on est venu à l'Assemblée nationale et pour se battre, à même trouver une solution.
En tout cas,
je pense que c'est essentiel, et c'est ce que j'appelle les péchés originels, qui fait que nos institutions provinciales soient totalement instables, parce qu'il n'y a pas de formation requise, il n'y a pas de compétences nécessaires, il n'y a pas de conscience politique,
et il y a des manipulations à tous les niveaux.
Merci beaucoup.
Tout le monde, certains députés, n'est-ce pas, provinciaux comme nationaux, comme tous les autres élus.
Merci beaucoup.
C'est une chance d'être balancé dans un sens comme dans un autre.
Merci beaucoup, honorable Jean-Lucien Moussa, pour votre intervention à cette émission. Nous prenons aussi Paul Ibé de Kindu. Bonjour Paul Ibé.
Bonjour, Marie-Chantal.
Oui, et Paul Ibé, dites-nous quelle est votre analyse et surtout des propositions pour améliorer même ce fonctionnement.
Oui, je vais commencer d'abord par commenter ce que M. Boussa vient de dire tout à l'heure.
Oui.
Il dit que les niveaux intellectuels, les niveaux... Je ne suis pas pour ça.
Donc vous pensez que tous les députés provinciaux ont un prérequis?
Le problème, c'est au niveau du système de suppléance. La population n'a pas mal voté, mais tous ceux dans la population, toutes les personnes, les grandes affiches dont la population a voté sont ailleurs. Et dans nos assemblées, on ne retrouve que les cousins, les fils, oncles et autres.
Donc vous pensez qu'il faudrait faire des propositions sur le système de suppléants, qu'est-ce qui peut être fait selon vous?
Oui, à la place, celui qui a choisi le pouvoir législatif reste dans le législatif jusqu'à la fin du mandat. Celui qui a choisi l'exécutif reste l'exécutif jusqu'à la fin du mandat. Alors, maintenant, mon point de vue, les raisons ne sont pas à chercher ailleurs. Le point commun, c'est la pauvreté, tant de ceux qui sont dans l'exécutif que celle de ceux du législatif.
Oui,
chaque fois qu'un député provincial prend une tasse de thé non remplie, ou qu'il passe une journée sans manger à sa faim, le matin, il initie une motion d'interpellation. L'exécutif, lui aussi, peut s'enrichir, sachant qu'il n'a pas un mandat à touchant les
comptes. Oui, Paul Ibé, on comprend. Vous faites allusion à la pauvreté.
Je donne les propositions, madame.
Parce que nous n'avons pas suffisamment de temps, il y a d'autres auditeurs qui attendent. Vous avez déjà fait certaines propositions, mais aussi, vous avez souligné que... En tout cas, Paul Ibé, nous n'avons pas assez de temps. Soyez un peu bref, en 30 secondes.
Je propose ce qui suit.
Oui. Hein,
de part et d'autre, de mettre un peu d'eau dans les vins. Hein? Bon, je ne sais pas comment les gens appelés honorables doivent se tirer les cravates pour des mesquins problèmes et qu'ils peuvent trouver solution. Deux, au gouvernement d'éviter de partager les élus. Hein, les gouvernements provinciaux, je dis bien. À mon avis, quand j'analyse ce qui se passe actuellement,
oui, et la troisième proposition, s'il vous plaît, Paul Ibé, pour...
La troisième proposition,
oui.
Il faut la création d'une école de self-défense avant de faire une carrière politique.
En tout cas, merci beaucoup, Paul Ibé, pour votre...
Vous pouvez prendre la tutelle technique et celle... Et celui de l'intérieur, la cité la plus.
Merci Paul Ibé pour vos propositions et aussi pour votre intervention. Mais il faudrait dire Paul Ibé que les députés provinciaux sont quand même les personnes qui sont les mieux payées en RDC par rapport aux fonctionnaires de l'État. Donc quand on parle de pauvreté, je ne pense pas vraiment qu'un député provincial se met dans le même rang que les fonctionnaires de l'État.
Ah,
nous prenons directement Mathieu. Oui, Paul Ibé, merci beaucoup. Nous prenons directement Mathieu de Kalinga. Bonjour Mathieu. Mathieu a des problèmes, on n'arrive pas à pouvoir le joindre et en plus son poste récepteur est allumé. Nous avons un retour. Nous prenons directement Germain. Bonjour Germain.
Oui, bonjour.
Germain, on vous écoute.
Oui, c'est d'abord par rapport à votre émission qui intéresse ici aujourd'hui. C'est que c'est malheureusement qu'on ait des assemblées provinciales et qui ont été votées. Vous savez, madame, nous pensons que la plus grande difficulté de ces assemblées, c'est d'abord l'oubli dans la loi. Vous savez que la Constitution n'a même pas prévu comment on peut dissoudre une assemblée. Et cela devrait être récupéré par une loi. Je pense qu'il faut revoir d'abord la loi.
Il faut donner
la possibilité de mettre fin à une assemblée dès lors qu'elle se comporte contrairement aux intérêts de la population. C'est important. Autant qu'un gouverneur qui est élu peut être démis de ses fonctions de Paris, les motions, et ainsi de suite. On doit envisager quelque chose contre un député ou contre toute une assemblée qui traîne toute une population dans la boue pour rien, pour des intérêts égoïstes. Qu'est-ce que nous disons? Ce que nous discutons là, dans la province, est-ce que vous savez même combien ils touchent? Je pense qu'il y en a qui touchent même plus que des ministres nationaux, plus que des députés nationaux. C'est possible. Hein? Que le gouvernement central dériverait à tout ça. Ces gens qui sont à la tête de l'argent, qui ne sont là que pour l'argent. Et rien que pour l'argent, c'est ainsi que vous voyez des motions. Quand ils ont des calculs, qu'ils n'ont plus d'argent, ils font des motions, ils savent que l'argent va sortir et ils vont se calmer. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, comme le disaient les députés qui devaient de suivre là, il est vrai que le problème des critériums a été un problème sérieux. Lorsqu'on a dit que la mention niveau d'études était non obligatoire. Ça, c'est très dangereux pour toute une nation.
Oui, Germain.
Aujourd'hui, les gens sont instruits, ils doivent être instruits pour faire des lois. Et vous voulez amener quelqu'un qui ne connaît rien de loi et il va légiférer quoi?
Merci beaucoup, oui. Germain. Ça permettra aussi aux électeurs de pouvoir, dans leur choix, être très, très, prendre des décisions et voter à la personne qu'il faut, à la place qu'il faut avant de voter, de pouvoir avoir une idée de qui est le candidat et qui sont ses suppléants, ce qui permettra bien sûr d'avoir un choix assez, assez bon des prochains représentants, des prochaines personnes qui vont vous représenter. Nous prenons directement Monsieur Jacques Joly, non, c'est l'honorable Jacques Joly, il est sénateur, vous nous appelez à partir de Kinshasa. On vous écoute.
Oui, madame, je vous écoute.
Oui, dites-moi un peu quelle est votre analyse des trois ans depuis l'installation des institutions provinciales.
Mais la situation des institutions provinciales doit être saisie d'abord au plan interne, les contraintes soulevées par mes prédécesseurs des critériums de la partie de personnes élues. Mais aussi au plan rapport avec le pouvoir central et n'est-ce pas aussi du comportement du pouvoir judiciaire. Si nous prenons les cas de Mbandaka, on voit bien qu'après une année pratiquement de perturbation pour avoir finalement un exécutif provincial, l'Assemblée provinciale s'élance maintenant dans une autre période de turbulence pour changer le bureau. Pour des motivations purement, je dirais, opportunistes, pour appuyer, créer une nouvelle majorité, alors qu'il y a eu une majorité qui s'était déclarée, et maintenant, par des manipulations pécuniaires, opportunistes, on est en train de déstabiliser. Et le pouvoir judiciaire, au lieu de venir jouer un rôle stabilisateur, joue un rôle pratiquement d'instrumentalisation et politique, pour s'occuper, n'est-ce pas, à pousser un groupe de députés à déstabiliser le bureau, alors que le même pouvoir judiciaire, lorsqu'il y a des... Par exemple, à l'Assemblée provinciale du Katanga, le pouvoir judiciaire ne réagit pas, et on sent même qu'il y a des personnes qui ont été à la base de cette perturbation qui sont nommées. Donc il y a un rôle interne, de déstabilisation interne aux assemblées, il y a aussi un comportement global du pouvoir central à Kinshasa, qui ne joue pas pour la stabilisation, et qui pour des intérêts politiques, utilise la justice et certains députés par corruption, le manipulation, pour déstabiliser la décentralisation, mieux le régionalisme que nous avons mis en place. Donc il y a des problèmes de texte, mais il y a aussi un problème de comportement des acteurs, aussi bien internes, mais qui est surtout central. Voilà la problématique.
Oui. Merci beaucoup, honorable, pour votre intervention. On peut vraiment retenir qu'il faudrait que le pouvoir judiciaire puisse aussi avoir un rôle assez grand dans le fonctionnement de ces institutions. Et vous avez même donné le témoignage de la province de l'Équateur. Nous prenons notre dernier auditeur en ligne. Il s'agit de Franck, qui nous appelle de Vienne, en Autriche. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour Madame Marie-Chantal.
Oui, malheureusement vous êtes le dernier, donc vous n'avez pas assez de temps. Quelles sont les propositions concernant ce dysfonctionnement qui est constaté dans certaines provinces?
Moi je crois que le problème qui se pose là c'est d'abord celui de la sélection. La sélection au niveau des candidatures n'avait pas été bien faite. Alors certains candidats se sont présentés et pour avoir été parfois populistes dans certaines circonscriptions, ils ont eu la chance de se faire élire. Alors maintenant, arrivé au niveau de leur parlement, ils ont quelque part les problèmes d'interprétation des textes. Et vous savez, pour un député, s'il n'arrive pas d'abord à bien comprendre les textes pour lesquels il est censé contrôler ou mettre en application, ça devient difficile.
Oui, quelles sont les propositions?
Des propositions. Je pense qu'il faut encore insister sur la sélection des candidatures.
Mm-hmm.
Il faut aussi vraiment éveiller la confiance des électeurs pour qu'en 2011, qu'on ne puisse plus passer des gens qui ne méritent pas la peine d'être appelés députés.
Merci beaucoup,
Franck. Je pense que c'est un problème de sélection et les électeurs, c'est à eux aussi de se décider à qui devraient-ils donner leur voix.
Merci beaucoup.
C'est à ce niveau-là qu'on peut aussi encore beaucoup travailler.
Merci beaucoup, Franck, pour votre intervention. Nous avons Serge Salomou qui nous écrit à partir de Kindu. Nous constatons que tout le monde a besoin de se retrouver dans un niveau, un certain niveau de pouvoir, mais alors quand il n'en trouve pas, il cherche un problème avec un membre du gouvernement provincial, mais aussi Alexis Lissalou de Kinshasa. Il dit la classe politique congolaise au niveau tant national que provincial est appelée à la tolérance, respecter le souverain primaire qui est le peuple. Les querelles intestines, des fois d'intérêt, ne peuvent pas faire avancer les choses. Les motions de défiance et de censure ne doivent pas être considérées comme des fonds de commerce. Les députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, tous sont appelés à répondre de la gestion de la chose publique à la fin de la législature. Les questions orales avec débat peuvent aussi être les bienvenues pour changer les choses. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Monsieur Gilbert Katsingé, vous avez été l'invité tout au long de cette émission. Il y a quand même une question qui était assez pertinente. Apparemment, les députés provinciaux n'ont pas un organe qui les contrôle. Est-ce que c'est dans les textes, c'est prévu?
Non, bon, je voudrais dire que le système qui a été mis en place, c'est ce qu'on appelle le régionalisme politique. Donc, si on permettait au pouvoir central de contrôler l'Assemblée provinciale, ce serait la catastrophe. Mais contrairement à ce qu'a dit un auditeur, il y a quand même une disposition dans la loi du 31 juillet 2008 sur la libre administration de province qui prévoit qu'une assemblée provinciale peut être dissoute de plein droit. De plein droit, lorsqu'il y a d'abord une crise nationale persistante. C'est le cas lorsque, pendant 6 mois successifs, l'Assemblée n'arrive pas à dégager une majorité. Vous savez, c'est très important dans un système démocratique d'avoir une majorité. Et en même temps, lorsque l'Assemblée ne sait pas se réunir pendant une session faute de quorum, elle est dissoute de plein droit. Et si aussi, au cours des 2 sessions, d'une même année, le gouvernement provincial est renversé à 2 reprises, comme ce qui s'est fait là. Si on renverse en 2 reprises dans une session un gouvernement, l'Assemblée provinciale est dissoute de plein droit.
Mais comme vous dites de plein droit, pour le commun, les mortels, pouvez leur expliquer?
Oui, de plein droit, c'est-à-dire c'est automatique, ils n'ont pas besoin.
Qu'il y ait une décision d'une certaine personnalité, donc c'est automatique.
Seulement, la décision sera constatée par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Tout simplement, ils vont faire rapport au président de la République. Ils constatent, mais l'Assemblée est déjà dissoute
de plein droit.
Et je voulais renchérir un peu pour ajouter ce que l'honorable Jean-Luc Boussa a dit. Je l'ai dit il y a 2 semaines dans une des émissions Dialogue entre Congolais ici devant ce micro. C'est qu'il y a effectivement un problème au niveau de la loi. Il faudra absolument la réviser. Parce que pour être député provincial, la loi dit seulement qu'il suffit d'avoir 25 ans. Être congolais et figurer sur une liste d'un parti politique. C'est un problème. Et donc, il n'y a aucun profil qui a été tracé pour définir le député. Il faudra modifier cette disposition. Mais un autre problème, c'est le système électoral lui-même. Vous savez qu'il y a des députés provinciaux qui siègent avec 1000 voix, pendant qu'il y a d'autres qui ont eu peut-être 5000 voix qui n'ont pas été. Oui, c'est le système électoral qui n'a pas été bon, mais c'était adapté à la situation d'un état post-conflit. Mais je crois qu'il faut, comme nous sommes déjà à une autre étape, il faudra
revoir tout ça. Un petit mot sur les conflits internes au sein des assemblées provinciales, même parce qu'il y a eu des bureaux qui ont été aussi changés dans certaines provinces, des personnalités aussi qui ont changé. Il y a même le président d'une assemblée qui a même changé de famille politique. Donc,
c'est un peu ce que je vous disais. Dans chaque assemblée, il y a toujours le jeu majorité-minorité. Et lorsque vous n'avez plus la majorité et qu'elle bascule eh bien, on peut vous renforcer facilement. Donc, il faut toujours maintenir cette situation-là. Et bien sûr, les gouverneurs provinciaux utilisent certaines majorités pour nuire un peu aux gens qui deviennent minoritaires. Et c'est danger démocratique.
Mais en bref, la décentralisation est en marche.
Elle se porte bien, nous continuons à réfléchir sur les textes. Même d'ici là, je retourne à l'atelier où nous sommes avec les ministres provinciaux pour voir comment nous allons transférer les charges de paiement des enseignants dans le secteur de l'agriculture, de la santé et la loi sur la fonction publique, parce qu'ils doivent avoir leur fonction publique.
La rétrocession ou bien
tout cela, nous,
la retenue
non, non, c'est un acquis, c'est constitutionnel et
donc tout cela, la retenue. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Gilbert Kassingé, pour votre participation à cette émission. Nous disons aussi merci aux auditeurs pour toutes vos interventions. Le prochain rendez-vous parole aux auditeurs, c'est pour demain. Demain, nous allons parler de l'annonce faite le jeudi dernier par la Commission électorale indépendante qui a annoncé le nouveau calendrier de la poursuite des opérations de révision du fichier électoral. Que pensez-vous de cette opération? Selon vous, au regard de l'expérience passée de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, ainsi que la révision du fichier électoral à Kinshasa, quelles propositions faites-vous pour rendre meilleure cette opération? Réagissez dès à présent par Internet. Vous pouvez nous écrire à l'adresse pa@radiookapi.net. Et surtout, restez branchés sur Radio Okapi pour la poursuite de ces programmes.